secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'athlétisme allemand. L'Allemagne, pays de 84 millions d'habitants pour 357 000 km², première puissance économique européenne, un grand pays de sport, d'athlétisme en particulier, sans oublier ses 4 titres de champion du monde en football, 1954 contre la Hongrie de Puskás, 1974 contre la Hollande de Cruyff, 1990 et 2014 contre l'Argentine de Maradona et Messi. Nous partons à la recherche de quelques légendes de l'athlétisme allemand. L'Allemagne domine les lancers au niveau mondial, tant chez les hommes que chez les femmes, le lancer du disque en particulier. Lars Riedel est champion olympique à Atlanta 1996, 5 fois champion du monde, mais il ne parviendra jamais à décrocher le record du monde de la discipline, détenu par son compatriote Jürgen Schulz avec 75,08 m depuis 1986. À plus de 40 ans, il était encore au top, mais des problèmes au grand dorsal l'obligent à renoncer aux Jeux de Pékin 2008. Robert Hardin est champion olympique du lancer du disque en 2012 à Londres. Il a été triple champion du monde. Son frère aîné, Christophe, lui a succédé comme champion olympique à Rio en 2016. Au lancer du poids, ce n'est pas mal non plus. Udo Beyer l'emporte aux Jeux olympiques de Montréal 1976. Et que dire de Ulf Timmermann, le premier lanceur à franchir la barre des 23 mètres, 23 mètres 06. Il est également champion olympique, toujours lors des Jeux olympiques de 1988 à Séoul, devançant Randy Barnes, à l'époque l'Américain recordman du monde, 23 mètres 12, dans un des concours les plus relevés de l'histoire. Et pour cause, pas pris par la patrouille. La RDA pratiquait à l'époque, à grande échelle, le dopage d'État sur des jeunes sportifs. Côté lancé du javelot, le champion olympique à Rio 2016 est Thomas Roller, avec un jet à plus de 90 mètres. À Tokyo 2021, le grand favori est l'Allemand Johannes Vetter, mais il finit par se classer que 9e. À signaler la performance de Neeraj Chopra, premier champion olympique indien en athlétisme au javelot. En remportant l'épreuve du lancer du javelot avec un jet à 87,58 m, l'Indien Chopra offre au deuxième pays le plus peuplé du monde sa première médaille d'or en athlétisme et la 10e de son histoire, tous sports confondus. À signaler dans ce concours la 5e place du Pakistanais Arshad Naden. L'athlétisme est bien une retranscription en miniature de la géopolitique mondiale. Au championnat d'Europe de Munich 2022, victoire de l'Allemand Julian Weber avec un jet à 87,66 m. Aux Jeux olympiques de Berlin 1936, les Allemands raflent toutes les médailles d'or en lancer. Les Jeux olympiques de Berlin 1936 sont une tache noire de l'athlétisme et de l'histoire tout court. Comment Hitler a instrumentalisé les sportifs allemands? Une revanche pour l'Allemagne, pays privé des Jeux olympiques d'Anvers 1920 au sortir de la Première Guerre mondiale. Les Jeux olympiques de Londres 1948 se dérouleront sans les vaincus de la Deuxième Guerre mondiale. Le sprint n'est pas le point fort des Allemands. Et pourtant, Armin Harry, fils de mineur, ancien champion de lutte, a gagné la médaille d'or du 100 mètres aux Jeux olympiques de Rome 1960 en 10 secondes. C'est la première fois qu'un non-américain gagne cette distance depuis 1928. Lors du relais 4 x 100 mètres, l'équipe des États-Unis franchit bien la ligne d'arrivée première, mais ses membres sont disqualifiés pour passage de relais incorrect. Armin obtient sa seconde médaille d'or. Son record mondial du 100 mètres en 10 secondes a été battu le 20 juin 1968 par Jim Heinz en 9 secondes 9 dixièmes. Ce record de Heinz sera d'ailleurs le dernier record enregistré en chronométrage manuel. Ce qui sera aussi le record européen du 100 mètres en 10 secondes a ensuite été égalé par Roger Bambuck, le français, le 20 juin 1968. Actuellement, Harmin s'occupe d'une association qui aide les enfants en difficulté et qui déniche de jeunes talents sportifs entre 4 et 12 ans. Au championnat d'Europe de Munich 2022, chez les femmes, victoire sur 100 mètres de l'Allemande Gina Lückenkämper. À l'opposé du 100 mètres, le marathonien Waldemar Sipierski, ancien spécialiste du 3000 steeple, est un double champion olympique 1976 et 1980. Sans le boycott des pays de l'Est aux Jeux olympiques de Los Angeles 1984, il aurait pu remporter un troisième titre olympique et dépasser l'exploit de l'Éthiopien Abebe Bikila, le coureur aux pieds nus, vainqueur des marathons de Rome 1960 et Tokyo 1964. À Munich 2022, le vainqueur du marathon masculin est à la surprise générale un Allemand, Richard Ringer, en 2h 10 minutes 21 secondes. Le meilleur Français, Navarro, finit cinquième malgré une chute. L'Allemand Dieter Baumann, vainqueur du 5000 mètres de Barcelone 1992, est en effet appelé le Kényan blanc. Pour la petite histoire, il remporte le 5000 mètres en 13 minutes 12 secondes 52 centièmes, devant le Kényan Bitok en 13 minutes 12 secondes 71 centièmes, l'Éthiopien Bayissa en 13 minutes 13 secondes 03, et le quatrième, le Marocain Boutayeb, en 13 minutes 13 secondes 20 centièmes. Excusez du peu, 75 centièmes d'écart entre le premier et le quatrième. En 2000, Baumann est testé à la Landrolone et suspendu 2 ans, fin de carrière. À Munich 2022, sur le 5000 mètres féminin, la Turque Yasemin Khan, titrée sur 10 000, fait exploser le peloton après 3 km de course. Elle semble s'envoler vers le doublé, mais, poussée par son public, l'Allemande Kotsanze Klosterhalfen ne se laisse pas faire et finit par l'emporter. On assiste à la naissance de l'athlète nouveau, avec la naissance de la RDA à partir de 1949. Marita Kaur est étudiante en médecine quand elle étonne le monde de l'athlétisme en devenant la première femme à courir en 200 mètres en moins de 22 secondes. Nous sommes en 1979, dans le stade fétiche de l'Allemagne de l'Est de l'époque, le Karl-Marx-Stadt, et les Jeux appelés Spartakiades. Elle ne sera pourtant pas la première femme sous la barre des 48 secondes aux 400 mètres. C'est la Tchèque Jarmila Kratochilova, première championne du monde à Helsinki en 1983, qui réalisera le temps de 47 secondes 99 centièmes. La consécration pour Marita Kaur viendra en 1985 à Canberra, en Australie. Privée des Jeux Olympiques de Los Angeles 1984 à cause du boycott des pays du bloc communiste, elle prend une éclatante revanche en s'imposant dans le chrono de 47 secondes 60 centièmes. Cette course va donc faire l'histoire. C'est toujours aujourd'hui la meilleure marque mondiale, loin devant le temps de Marie-Jo Pérec, 48 secondes 25 centièmes, réalisé à Barcelone aux Jeux Olympiques de 1992. Marita Kaur est née le 18 février 1957 à Rostock, en RDA. Repérée à 14 ans par son entraîneur Wolfgang Mayer, elle deviendra championne olympique du 400 mètres à Moscou en 1980. En 1987, torturée par des tendons douloureux, elle raccrocha et se maria ensuite avec son entraîneur, celui-là même qui tenta de relancer Marie-Jo Pérec pour les Jeux de Sydney 2000. La RDA affirme son existence au niveau international grâce au sport, l'athlétisme, la natation, le cyclisme sur piste. En 20 ans, 1968-1988, la RDA s'est à l'époque affirmée comme une grande puissance sportive mondiale. Ainsi, aux Jeux d'été, en 5 participations, 1968, 1972, 1976, 1980, 1988, la RDA a obtenu 409 médailles, dont 153 en or. Le mur de Berlin tombe le 9 novembre 1990, prélude à la réunification des deux Allemagnes. Les deux pays ne possèdent pas le même niveau économique. Cette différence existe aujourd'hui entre les régions Länder de l'Ouest, ex-RFA, et de l'Est, ex-RDA. Jusqu'en septembre 2021, l'Allemagne a été dirigée par Angela Merkel, la chancelière éternelle. Elle aura fait 16 ans, comme Helmut Kohl, qui aura fait aussi 16 ans, de 1982 à 1998. Actuellement, les sociodémocrates sont de retour au pouvoir. La réforme luthérienne est introduite par le moine Augustin Martin Luther et ses 95 thèses. Il sera excommunié en 1517. Les paysans d'Allemagne du Sud se révoltèrent contre leur seigneur à la fin de l'année 1524. L'Allemagne avait déjà connu au cours du demi-siècle précédent plusieurs révoltes paysannes, mais celle-ci fut d'une ampleur bien plus considérable. Dans l'ensemble, les paysans tendaient à accepter la noblesse, à condition qu'elle consente à se soumettre à leur association communale. En avril 1525, des armées de mercenaires levées par les seigneurs et les princes, ceux-là même qui avaient soutenu la réforme luthérienne, entreprirent de détruire la rébellion. 100 000 paysans furent tués, la plupart à la suite de prétendues batailles qui n'étaient pas que des déroutes, les hommes d'armes des princes se divertissant beaucoup dans la poursuite des fugitifs. Les guerres de religion ont déchiré les Allemands au XVIe et XVIIe siècle, au cours de la guerre de 30 ans, 1618-1648, soldée par le traité de Westphalie, qui accorde des droits aux princes et villes allemandes. Aujourd'hui, le nord et l'est de l'Allemagne sont majoritairement protestants, le sud, la Bavière, catholique. Du Saint-Empire germanique, on est donc passé aux principautés, et à partir de 1806, émerge la Confédération germanique qui amènera au cours du XIXe siècle l'Empire allemand dominé par la Prusse. C'est dans cette période troublée, guerre de 30 ans, guerre de religion, qu'émerge Jean-Sébastien Bach, 1685-1750. On lui doit l'oratorio « La Passion selon saint Matthieu ». On est le vendredi saint de l'année 1727 à Saint-Thomas de l'Espic, cette même église qui abrite le tombeau de Jean-Sébastien Bach. Ludwig van Beethoven, 1770-1827, perpétue ensuite cette tradition musicale allemande. La musique, comme la course à pied, une des choses les plus importantes des choses accessoires.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.
Attention, 30 secondes avant départ. Vous n'oublierez pas, bien sûr, de diffuser du sourire.
La chronique de Gilles Labouroir. Le sport entre histoire et société.
Cette semaine, les chroniques de Gilles s'intéressent à l'athlétisme sud-africain. Les Jeux de Barcelone en 1992 sont marqués par le grand retour de l'Afrique du Sud. Écarté du concert sportif international depuis 1964 en raison de sa politique d'apartheid. En finale du 10 000 mètres féminin, la victoire se joue justement entre Elena Meyer, une Sud-Africaine blanche, et Dehartu Tulu, une Éthiopienne noire, tout un symbole. Elena Meyer imprime une forte cadence et seule l'Éthiopienne s'accroche. Mieux, juste avant le dernier tour, Tulu double Meyer, accélère et s'impose avec 30 mètres d'avance. Elle devient la première athlète d'Afrique noire championne olympique. Les deux femmes tombent alors dans les bras l'une de l'autre et font un tour d'honneur. Cette image a marqué les esprits. Cette course va donc faire l'histoire. Elena Meyer supplante en 1992 une autre Sud-Africaine, Zola Budd, la coureuse aux pieds nus, qui apparaît sur la scène internationale en 1984 en battant le record du monde du 5000 mètres. Zola Budd participera aux Jeux Olympiques de 1984 sous les couleurs du Royaume-Uni. En finale du 3000 mètres, Zola Budd fait tomber la favorite américaine Mary Decker et finit 7e de la course sous les huées du public américain. De son côté, Dehartu Tulu, la reine de Saba, inaugure le triomphe féminin éthiopien sur le fond avec l'avènement de stars comme sa cousine Tirinesh Dibaba, championne, double championne olympique 5000-10000 à Pékin 2008, ex-détentrice du record du monde du 5000, en 14 minutes, 11 secondes, 15 centièmes, où Meseret Defar. Symbole de la fin de l'apartheid, le petit Africain Josiah Tougané gagne le marathon d'Atlanta 1996 en 2h12 minutes 36 secondes, devançant de 3 secondes le Sud-Coréen Bonju Liu et de 8 secondes le Kenyan Eric Wainaina. L'Espagnol Martin Fizz, champion du monde en titre, finit quatrième. Jamais en un siècle, les écarts n'avaient été aussi minces à l'issue d'un marathon olympique. Josiah Tougané, 25 ans, 1m58, 45 kg, lunettes de triathlète, a renforcé la fierté et la confiance de la nation sud-africaine un an après la victoire en rugby des Springboks à l'Ellis Park de Johannesburg, devant les All Blacks néo-zélandais sous les yeux de Madiba, Nelson Mandela. Il est né le 15 avril 1971 à Bétal, à 200 km à l'est de Johannesburg, la plus grande ville du pays. Il n'a pas échappé durant son enfance à un destin de mineur de charbon. Il aime le football, il ne fréquente pas l'école. Il ne sait ni lire ni écrire, mais sa volonté et son assiduité à s'entraîner en solitaire à la tombée de la nuit autour des sites industriels de son quartier intrigue un Anglais, Tony Langers, qui s'intéresse à l'athlétisme et qui deviendra son entraîneur. Tougané comprend très vite qu'il peut vivre de la course à pied. Le rêve olympique a bien failli s'évanouir au mois de mars 1996. Alors qu'il rentrait chez lui en camionnette, il s'arrête pour prendre 3 autostoppeurs, en fait des malfaiteurs, qui en veulent à son véhicule. Tougané oppose une résistance à ses agresseurs, mais ces derniers lui logent une balle dans la mâchoire et le laissent pour mort sur le bord de la route. Rétabli, il rejoindra Atlanta après un passage dans un camp d'entraînement au Mexique, à 1500 mètres d'altitude. L'Afrique du Sud est un pays de 56 millions d'habitants, répartis en 80% de Noirs, 10% de Blancs, 10% de Métis et d'Asiatiques, capitale Pretoria, plus grande ville, Johannesburg. Superficie de 1 200 000 km², soit 2,5 fois la France. Au départ, colonie franco-néerlandaise en raison de l'exil des protestants chassés d'Europe, elle est devenue colonie britannique en 1806. S'ensuivent des guerres avec les populations d'origine, la guerre des Boers. Les années 1960 marquent l'indépendance du pays. L'Afrique du Sud est souvent appelée « nation arc-en-ciel », notion inventée par l'archevêque Desmond Tutu pour désigner la diversité de la nation sud-africaine. C'est sa grande chance, mais il se dit aussi que depuis 1994, plus d'un demi-million de Blancs ont quitté le pays. On se souvient en 1976 des émeutes de Soweto contre l'enseignement obligatoire en africain. Le gouvernement déclare l'état d'urgence. En 1990, le nouveau président sud-africain, Frédéric de Klerk, légalise l'ANC, le Parti communiste sud-africain, et tous les mouvements noirs, Nelson Mandela, est libéré. En 1991, le gouvernement abolit les dernières lois de l'apartheid. Les premières élections multiraciales de l'histoire du pays sont remportées par l'ANC. Nelson Mandela devient le premier président noir du pays. Si l'Afrique du Sud est la première économie du continent africain, représentant un quart du produit intérieur brut de l'Afrique, elle bat néanmoins des records en matière de criminalité. On y compte environ 20 000 meurtres par an, 30 000 tentatives de meurtre, plus de 50 000 viols. Presque tous les habitants d'Afrique du Sud ont une fois dans leur vie fait l'expérience directe de la criminalité et de la violence. La corruption y est aussi active. L'affaire Oscar Pistorius, du nom du premier athlète médaillé parmi les valides, The Blood Runner, l'homme aux lames, condamné pour le meurtre de sa compagne et dans toutes les têtes. En 2013, Oscar Pistorius a été condamné à 6 ans de prison ferme. En 2013, décède Nelson Mandela, dit Madiba, le père de la nation sud-africaine, à l'âge de 95 ans. Aujourd'hui, les descendants de Mandela se déchirent au sein de l'ANC, le parti fondé par Mandela. Y aurait-il un rêve trahi de l'Afrique du Sud? L'auteur sud-africain André Brink, prix Médicis étranger 1980 pour une saison blanche et sèche, réaffirme son droit et sa volonté de continuer à vivre en Afrique du Sud. « Je partage avec d'autres, noirs, bruns, blancs, cet endroit de la terre où ma mère et mon père sont enterrés, et mes grands-parents et leurs ancêtres, depuis des générations et des générations. Cela signifie que nous nous sommes assimilés par près de 4 siècles de vie sur ce continent, et qu'en retour nous avons assimilé ces siècles dans nos os et notre sang. Les rythmes de sécheresse et d'inondation, les famines et l'abondance, les cruautés inhumaines, et les meurtres et les privations, les rives, les rires et l'amour, la pitié, la générosité, tout ceci a un prix, et nous l'avons payé parfois de mauvaise grâce, ou même avec ressentiment, souvent avec joie et bonne volonté. On peut voir sur le drapeau sud-africain les couleurs suivantes. Le noir, le jaune, le vert, le blanc, le rouge et le bleu. Le noir, le vert et le jaune sont les couleurs traditionnelles des mouvements noirs africains. Mais des représentations spécifiques de chaque couleur sont avancées. Le bleu, qui représente le ciel et les fleuves. Le vert, représentant la terre africaine à perte de vue et l'agriculture. Le blanc, les natifs à la peau claire et qui sont européens, et aussi pour la paix. Le noir, explicitement la population noire, en question, et pour la force. Le jaune, la richesse aurifère du pays et les minéraux en abondance. Le rouge, qui représente le sang versé lors des affrontements entre noir et blanc, si l'on regarde bien, un motif est mis en exergue sur le drapeau. La lettre Y, elle représente la jonction des divers éléments de la société sud-africaine, mais qui prennent la route à l'unisson. La nouvelle star de l'athlétisme sud-africain s'appelle Wayne Van Niekerk, 1m83, 72 kg, 25 ans, actuel recordman du monde du 400 mètres. Impressionnant. Juste un record du monde en 43 secondes, 3 centièmes, en remportant le titre à Rio 2016, améliorant les 43 secondes, 18 centièmes de l'extraterrestre Michael Johnson, réalisé en 1999, au siècle dernier. Dans le panthéon de l'athlétisme sud-africain, il vient effacer Oscar Pistorius et surtout Caster Semenya, la spécialiste du 800 mètres, champion du monde à Berlin 2009, vice-champion olympique à Londres 2012, porte-drapeau de l'Afrique du Sud. Renaissance de Caster Semenya. Elle a décroché sur 800 mètres féminins de Rio 2016 la médaille d'or. La Sud-Africaine l'a emportée en 1 minute 55 secondes 29 centièmes. Elle a devancé la Burundaise Francine Niyonsaba et la Kenyane Margaret Wanbi. Mais elle ne peut plus participer à des compétitions sur sa distance de prédilection, le 800 mètres, en raison d'un nouveau règlement de la Fédération internationale d'athlétisme concernant le taux de testostérone des athlètes. La Fédération internationale estime que les femmes hyperandrogènes, qui produisent naturellement cette hormone masculine, ont un avantage en compétition sur leur adversaire. Son histoire a été adaptée au théâtre par Léa Girardet. Libre arbitre, ou l'histoire de cette championne sud-africaine à qui les hommes ont reproché de n'être pas assez femme. La comédienne s'est fait repérer avec le syndrome du banc de touche, un solo dans lequel elle comparait le sort des footballeurs remplaçants du Mondial 1998 avec celui des actrices au chômage. Elle a bifurqué vers l'athlétisme. L'histoire des femmes soupçonnées d'être trop viriles est aussi vieille que le sport moderne, mais celle de Caster Semenya est la plus emblématique. Médiatisée, feuilletonnée, c'est aussi une histoire d'aujourd'hui. Caster s'est soumise avant de se rebeller et de poursuivre la Fédération internationale d'athlétisme devant les tribunaux pour discrimination. Sa carrière internationale est sans doute finie. Elle en a beaucoup pâti, mais sa lutte va servir à d'autres. Caster est devenu l'emblème de tous les combats, féministe, tiers-mondiste, mais aussi LGBTQIA, lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer, intersexe et asexuel. 6 ans après son enquête sur son identité sexuelle qui l'avait blessée, Caster Semenya a peut-être tourné la page, mais son grand retour aux Mondiaux de Pékin 2015 avait été un échec. Elle a fini dernière de sa demi-finale. Son projet de battre le plus vieux record du monde à l'athlétisme de plein air, le 800 mètres féminin, détenu depuis 1983 par la Tchèque Jarmila Kratochilova en 1 minute 53 secondes 28 centièmes, avait pris du plomb dans l'aile. Sa nouvelle entraîneuse depuis 2011 est la Mozambicaine Maria Mutola, triple championne du monde et championne olympique sur 800 mètres de Sydney 2000. Elle aussi avait également été stigmatisée dans les années 1990 pour son physique masculin. Caster Semenya n'est plus revenue au premier plan, par exemple à Tokyo 2020, où elle comptait s'aligner sur le 200 mètres. Sa motivation est donc de préparer la suite de sa vie, en particulier celle de permettre aux enfants sud-africains les plus défavorisés d'avoir accès à des équipements sportifs. La nouvelle mission de Caster Semenya, celle d'aider les autres. Thank you.
C'était la chronique de Gilles Labouroir, à retrouver en podcast sur le site d'Esprit Occitanie.